Au commencement de l'univers, il y avait le chaos. Il y avait la terre. Et il y avait la conscience. Et tous les trois, chaos, Gaïa et conscience, vivaient seuls dans des contrées reculées. Et ils sont restés ainsi quelques milliards d'années sans jamais se parler. Et puis un jour, conscience s'est approchée de chaos, qui était un personnage confus, quelqu'un qui avait du mal à structurer sa pensée. Et conscience s'est adressée à chaos et lui a dit « Chaos, tu devrais mettre un petit peu d'ordre dans tes affaires. » « De quoi ?»« De l'ordre. Tu devrais organiser un petit peu ta vie, tu devrais avoir un projet. Peut-être faut-il que tu envisages de faire un enfant. » Un enfant? Allez, qui veux-tu que je fasse un enfant en conscience? La discussion s'est arrêtée là, ils sont partis chacun de leur côté. Mais les paroles de conscience sont restées gravées quand même dans la mémoire de Chaos. Et il a commencé à réfléchir. Et il a réfléchi comme ça un bon milliard d'années. Oui, je sais, ça paraît un petit peu long parce que maintenant on n'est plus très habitué à réfléchir, mais à l'époque, c'était pas excessif. Et après cette intense réflexion, Chaos, tout seul, sans l'aide de personne, sans s'unir à qui que ce soit, Chaos a engendré le jour et la nuit. Une réussite presque parfaite. Jour, nuit, jour, nuit. Qui se succédaient sans accroc, à peine un petit décalage au moment de l'équinoxe, mais globalement, belle, belle réussite. Et après cela, Chaos est rentré chez lui et il a été vaqué à ses occupations. Dans le même temps, et assez loin de là, Gaïa, la Terre, s'ennuyait. Elle supportait mal la solitude. Elle n'allait vraiment pas bien, la Terre. Elle allait si mal que, sans l'aide de conscience, qui décidément fourmillait d'idées originales, on ne sait pas trop ce qu'elle serait devenue. Alors conscience s'est approchée de Gaïa et lui a dit « Tu sais, Gaïa, tu devrais faire un enfant. Un enfant qui deviendrait plus tard ton compagnon. » Ah, ça c'était une belle idée. Alors Gaïa a commencé à imaginer le compagnon idéal. Elle l'a voulu grand et doux et fort et beau et intelligent et drôle et ceci et cela. Et puis tout à coup, elle s'est dit quand même qu'il fallait qu'elle soit raisonnable et qu'il valait mieux limiter ses prétentions, sinon elle risquait d'être déçue. Et donc finalement, elle l'a juste envisagé grand et doux. Suffisamment grand et suffisamment doux pour qu'il puisse l'étreindre entièrement dans ses bras. Elle en était là de ses réflexions, quand tout à coup de sa matrice a jailli Ouranos, le ciel étoilé, exactement comme elle l'avait imaginé, grand et doux. Et à chaque nuit que fabriquait Chaos, Ouranos enveloppait tendrement Gaïa. Il la recouvrait de son long corps et pénétrait ses failles les plus intimes. Et c'est ainsi qu'au lit du ciel, Gaïa engendra d'abord Pontos, le flot marin, et puis les six titans et leurs six sœurs, les titanides, et encore les trois cyclopes, Brontès, Argès et Stéropès, des géants inventifs qui maîtrisaient la foudre. Ceux-là n'avaient qu'un seul œil au milieu du front, et ils étaient si laids qu'on pouvait mourir juste en croisant leur regard. Et encore trois enfants plus grands encore et plus monstrueux avec 100 bras qui partaient de leurs épaules et 50 têtes chacun. Il faut dire que tous les enfants qui naquirent de la terre et du ciel étaient les plus beaux des enfants. Monstrueusement grands et doués d'une force inimaginable. Seulement, Ouranos n'a pas su bien profiter de ce cadeau extraordinaire qu'est la paternité. lieu de s'attendrir devant ses enfants qui grandissaient, de les regarder avec amour et tendresse, il n'en a vu que les côtés négatifs, les enfants qui piaillaient dans ses pieds, les réveils la nuit, l'abstinence un peu, forcément, avec Gaïa. Et ça l'a énervé, et de rage, il a pris l'habitude, dès que ses enfants naissaient, de les enfermer dans le ventre de leur mère, dans les entrailles de la terre. Mais la terre, de plus en plus lourde, la terre encombrée du fardeau de sa progéniture, la terre qui se déplaçait de plus en plus péniblement. La terre s'est mise à gémir. Et elle a gémi longtemps. Et puis un jour, elle a trouvé la force de crier. Et enfin, elle s'est révoltée. Et là, dans son ventre, elle a convoqué tous ses enfants, les titans, les cyclopes, les sans-bras. Et devant tous ses enfants réunis, elle a brandi une faucille. Et elle a réclamé vengeance. Vous les auriez vus, les fiers titans, les gigantesques cyclopes, les monstrueux sans bras, vous les auriez vus baisser la tête devant leur mère, penauds, pitoyables, s'osaient même plus la regarder. C'est le plus jeune, Cronos, qui finalement a relevé la tête et a regardé sa mère droit dans les yeux. Et il a pris la faucille. Arrive la nuit. Uranos, fou de désir, recouvre Gaïa. Mais l'autre là, son fils, tend la main gauche. De la droite, il prend la faucille. Et du sexe de son père, schlac, il fait moisson. Et il le jette derrière lui. En gémissant, Uranos se retire à jamais de Gaïa. Et de son sang, mêlé à la terre, naissent les érinies, la violence et la haine. Quant à son sexe, que Cronos a lancé loin derrière lui dans la mer, il en sourd une blanche écume qui se mêle à l'écume des vagues. Et de cette union naîtra Aphrodite, et avec elle, l'amour.